Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Le monde au féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le monde au féminin.
Parole de femme.
Nous sommes avec Élisée Zola et Noah Salibi, deux éco-entrepreneurs d'origine congolaise de la République démocratique du Congo. Et merci beaucoup d'être avec nous pour Le Monde au féminin de VOA Africa.
Merci à vous pour l'invitation.
Vous êtes en effet ici pour la conférence annuelle Africa Femmes Performantes, qui est organisée par Patricia Seck. Vous êtes venue ici en fait pour présenter vos projets. On peut peut-être commencer par Élisée. Donc vous êtes pharmacienne de formation, vous êtes podologue. Alors vous utilisez des produits essentiellement donc naturels. Expliquez-nous un petit peu donc l'objet de votre entreprise.
Alors effectivement, j'ai une démarche écologique dans la production et l'utilisation de mes produits. J'ai voulu proposer une alternative naturelle à tous les cosmétiques qui sont aujourd'hui sur le marché, en favorisant les matières premières qui viennent de l'Afrique, qui pourraient éventuellement permettre à ce qu'il y ait une meilleure commercialisation et une économie un peu plus florissante en Afrique.
Et Noah, vous, c'est la même chose au niveau de l'architecture. Vous êtes donc architecte de formation, architecture intérieure, c'est ça? Et vous voulez créer une ville éco. C'est un projet d'urbanisme qui est très centré effectivement sur l'utilisation des matériaux locaux.
Exactement. Le projet est né en 2016. Quand on a fait face en fait à une crise économique en Angola.
Oui, on précise que vous êtes en ce moment à Luanda.
Oui, à Luanda. Ça fait 13 ans que j'y habite. Et pendant la crise, on a remarqué qu'en fait plus de 90% de produits alimentaires viennent de l'extérieur du pays. Et comme on était rentré en récession, en fait, on avait des limitations dans les supermarchés. J'étais profondément en fait choquée parce que quand on vit au quotidien, on ne se rend pas compte de ces choses-là. Et du coup, l'importance de développer l'agriculture est venue à ce moment-là. Et quand j'ai un petit peu remarqué aussi tous les problèmes sociaux qu'il y avait dans le pays, donc c'est là que toute l'idée de cette Eco-City a émergé. Ça a pris 6 ans d'élaboration en partant effectivement de l'agroforesterie, donc développer sur certains hectares en fait une multitude de produits différents. Donc on parle d'arbres fruitiers, de légumes et aussi d'élevage, ce qui permet en fait de rendre la terre fertile et d'avoir une plus grande production.
Est-ce que vous avez eu la possibilité de créer un projet pilote ?
Séparément, parce que le projet en entier n'existe pas sous cette forme-là. J'ai été visiter donc des zones où il y a des constructions plus ou moins écologiques et des zones où il y a de l'agroforesterie. Et en fait, l'agroforesterie, c'est laisser la nature se développer par elle-même. Là, maintenant, nous sommes dans la troisième phase. Nous avons un terrain de 50 hectares donc à Kinshasa et nous allons construire donc le projet pilote qui sera sous forme de centre de formation à grande échelle. Chaque étape sera filmée et documentée pour que ce soit après accessible en fait à tout le monde. On va faire une sorte de télé-réalité show sur la conception d'une éco-cité.
Donc c'est un projet pilote mais qui sera habitable.
Oui, habitable, donc avec clinique, avec école, centre culturel pour promouvoir la culture aussi des régions.
Alors Élisée, je reviens vers vous. Vous êtes en Belgique, Élisée.
Oui.
Vous produisez donc ces produits pharmaceutiques. Vous importez les produits pour fabriquer les vôtres là-bas en Belgique.
Exactement. Il y a une partie de mes matières premières qui viennent de l'Afrique. Et donc je me suis rendu compte qu'avec beaucoup de soucis de conformité, je ne peux pas m'approvisionner sur toutes les matières premières dont j'ai besoin. Donc d'où a germé cette idée de pouvoir essayer d'implanter une unité de production sur place qui produirait des matières premières avec les normes de qualité que l'Europe ou l'Amérique pourraient valider afin qu'ils soient exportés, commercialisés et donc permettre à l'économie de la région ou du pays dont elles sortent de pouvoir évoluer.
Là, vous avez besoin de créer des partenariats. Oui. Est-ce que vous allez donner la priorité à des coopératives de femmes?
Voici l'idée. Vous êtes tombé sur le mot exact. Nous allons solliciter beaucoup plus les coopératives de femmes, les groupements de femmes, les associations de femmes.
Non, à vous, au niveau des partenariats, là, c'est peut-être un petit peu plus difficile. On parle d'urbanisme. Hein. Qu'est-ce que vous envisagez?
Nous avons déjà des partenaires locaux. Kemco, qui est une entreprise qui produit des maisons autobloquantes, donc des blocs de construction avec les plastiques, les déchets plastiques. Et ce qui est intéressant avec cette compagnie, c'est qu'il ne recycle pas un seul type de plastique, mais il reprend les 7 composants de plastique différents. Donc on peut transformer tous les déchets plastiques pour la construction. Donc nous répondons aussi à la problématique de la pollution.
Au niveau de l'isolation, par exemple, on n'a pas trop chaud dans une maison en plastique en Afrique?
Ça a été labellisé, je pense, aux États-Unis. C'est une compagnie qui est à l'origine de l'Argentine. Ils ont déjà développé plusieurs partenariats pour la construction d'infrastructures. Il y a des labels là-dessus, donc il y a des études qui ont été portées sur ces produits-là.
Élisée, au niveau de la pharmacie, vous-même, et au niveau des labels, au niveau des conformités, vous avez dû passer par tout un processus, on imagine, hein, surtout en Belgique, c'est assez strict. Vous avez répondu aux normes de quelle manière ?
Effectivement, il y a beaucoup de normes, par souci de conformité, de législation aussi. Le chemin a été un peu long. Il m'a fallu plus ou moins 2 ans pour pouvoir commercialiser mes produits. Comme vous savez, ils ont une empreinte écologique, c'est-à-dire que leurs emballages sont éco-responsables. Donc, j'ai dû fournir aussi des certificats avec des produits labellisés éco-responsables pour pouvoir les utiliser comme tels.
Vous pouvez nous citer les produits que vous utilisez pour concevoir vos cosmétiques?
J'utilise des bases comme le beurre de karité, l'aloe vera. J'ai les huiles essentielles qui en fait apportent tout le côté thérapeutique. J'utilise de l'huile de noix palmiste. J'utilise aussi de l'huile d'amande douce.
Et c'est là que c'est intéressant. Il y a un partenariat qui va plus ou moins se créer entre vous deux, entre Élisée et Noah. Noah, dites-nous un mot là-dessus justement.
On parle déjà de la production agricole. Nous travaillons avec des coopératives, donc c'est pas nous-mêmes qui implémentons. Nous allons donc dans les 50 hectares qui sont déjà disponibles, il y a déjà des femmes qui travaillent. Mmh. Et donc on crée des coopératives avec des partenaires comme Élisée dans le domaine de la cosmétique et de la parapharmacie. On pourra lui fournir donc les produits dont elle a besoin et avoir une institution à l'intérieur même de l'Ecocity qui va pouvoir donner des labels et des certificats pour tous les produits qui seront produits à l'intérieur de l'infrastructure de Divinity City, donc développement vers de nouveaux temps. Donc on veut vraiment apporter un soutien au développement économique et social du pays.
Et aux États-Unis, est-ce que vous avez rencontré des entreprises ou autres qui seraient intéressées par des partenariats avec vous?
Oui, ça a été une très grande porte ouverte, en tout cas ce voyage. Nous avons pu avoir accès à des informations importantes comme la GOA en ce qui concerne
les matières premières.
Mm-hmm. Donc là, on sait déjà qu'il y a déjà une porte vers les États-Unis. Avec Madame Patricia Seke, qui est la présidente de Africa Femmes Performantes, avec ses connexions, en fait, maintenant, elles vont porter le projet Divinity City et trouver des partenariats américains pour pouvoir développer le projet pilote.
Donc, à cette réunion annuelle, on sait qu'on a plein de femmes qui viennent du continent, mais il y a aussi, n'est-ce pas, des Africaines qui travaillent ici sur place. Donc, c'est le moyen pour vous aussi de nouer des liens et de voir ce qu'il est possible de faire à ce niveau-là.
Exactement.
Au niveau des coûts pour ce genre de construction, parce que l'objectif finalement, quand on crée un village en Afrique, on connaît les problèmes d'habitat qu'on a en Afrique. La plupart des gens sont mal logés, n'est-ce pas? C'est eux-mêmes qui construisent leur maison. C'est quelque chose qu'on voit quasiment nulle part ailleurs.
Oui.
L'Afrique est douée pour ça.
Oui.
C'est la famille qui construit sa maison. Et c'est tout un savoir, en fait, ancestral que vous-même, vous avez justement l'intention d'utiliser. On l'utilise, on le voit aujourd'hui, hein, cette nouvelle vague d'architectes africains qui effectivement ne vont pas faire des choses en béton, mais au contraire vont vraiment utiliser les matériaux locaux. Et est-ce que l'objectif c'est aussi de pouvoir présenter un habitat accessible à la classe la moins favorisée?
Tout le projet est justement tourné là-dessus, parce que aujourd'hui être entrepreneur, si on veut développer l'entrepreneuriat, les locaux sont extrêmement cher. Donc avoir accès à des infrastructures pour développer son industrie ou son projet, ça requiert énormément d'investissement. Et tout le projet est tourné là-dessus parce que tout ce que nous faisons en construction, c'est social. Il y a dans le projet 70% de la construction qui est dirigée à l'aide au développement, donc accessible à la population,
le logement social.
Mm-hmm. Mais ça va plus loin que ça, parce que nous avons des bureaux administratifs où il y aura des personnes qui pourront avoir un espace pour travailler. Il y aura un centre commercial alternatif, donc ça va être aussi une zone où ils pourront avoir accès pour commercialiser leurs produits ou leurs services à des coûts réduits. Donc c'est l'habitation, l'espace commercial, l'espace bureau et la zone aussi de transformation, de production de leurs produits. Mmh. Donc c'est tout un espace qui permet en fait aux moins favorisés de pouvoir développer leur idée.
Alors on parle tout de même de nouveaux procédés, même si c'est dans l'air du temps, nouveaux procédés de construction, ce qui veut dire qu'il faut des spécialistes aussi.
Oui, bien sûr.
Des ingénieurs, mais aussi pour construire ces maisons, il faut former les gens en fait. Donc là aussi, est-ce qu'il y a des projets de formation? Comment vous allez choisir les gens qui vont construire tout ça?
Le projet était global et l'idée de ce projet, c'est de travailler avec les personnes qui seront à l'endroit où on va le développer. Prenons Kinshasa. Pour Kinshasa, pendant un an, j'ai retravaillé, adapté le projet pour la ville de Kinshasa avec des ingénieurs congolais et une équipe technique, et donc avec des ingénieurs congolais, des architectes congolais et des professionnels dans tous les métiers de la construction congolais. Parce que c'est un projet inclusif en fait, et c'est pour montrer vraiment que nous avons tout dans le pays pour pouvoir développer le pays.
Vous écoutez Le Monde au Féminin sur VOA Afrique.
Élisée m'a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Elle m'a parlé de vos papas respectifs.
Oui.
Alors, Élisée, qui est pharmacienne, qui est podologue, elle est intéressée pour connaître un petit peu votre papa qui est chimiste.
Exactement.
Et vous, qui avez une formation en architecture, vous êtes intéressée par le papa de Élisée, qui est dans le génie civil.
Exactement.
Et ça, c'est formidable.
Exactement.
Ouais. Donc, vous allez élargir la famille, là, dans le projet. C'est les papas, ils vont venir aussi travailler avec vous?
Oui, mon père est déjà basé en RDC, donc à Kinshasa. Et justement, il est en train d'ouvrir une nouvelle pharmacie qui s'appelle Pharmacie et Nature. Donc, il veut vraiment promouvoir tous les produits du type qu'Élisée a déjà développé et qui va encore agrandir sa gamme parce qu'elle a un très grand projet aussi derrière. Mm-hmm. Donc, les mettre en connexion et créer une synergie pour pouvoir développer tout ça.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez déjà apparemment développé votre projet, comme vous venez de l'expliquer, avec des spécialistes. Élisée, votre particularité, c'est que vous faites tout toute seule, c'est ça?
C'est bien ça.
Il va falloir passer à la vitesse supérieure.
Je dois passer à la vitesse supérieure et m'entourer d'un peu plus de spécialistes et experts.
Alors, comment ça se passe dans les connaissances entre vous, quand on veut créer un projet? Là, par exemple, toutes les deux, c'était quoi? C'était le coup de foudre? Vous vous êtes rencontrés ici, vous dites super, on va faire tout ça?
Alors, nous deux, on s'est rencontrés grâce à une autre plateforme qui s'appelle Kinculture, qui est donc animée par Monsieur Eric Yaone, qui habite dans le Maryland, et qui nous a invités à participer à son émission qui s'appelle 30 minutes briefing. Donc, on a fait chacune une émission sans se connaître. Et il nous a parlé de ce congrès qui s'est tenu ici par Africa Femmes Performantes. Et donc, on était très emballés parce qu'on trouvait que le projet était beau. Et nous sommes venus, on va dire, accompagnés de Monsieur Eric Yaone. Et donc, c'est comme ça que ça a fini par matcher. Parce que moi, je suis arrivée avant Noah. Je suis arrivée 48 heures avant la date de début de la conférence. J'avais été prise en charge par Eric et Noah est arrivée après. Et donc, ayant été prise en charge donc par Eric, on a fini par se côtoyer quasi tous les jours. Et en fait, en discutant et en dialoguant, on s'est rendu compte qu'on avait tellement de points en commun qu'on s'est lâché sur nos projets avant même de commencer la conférence. Et on s'est dit, mais enfin, il fallait juste qu'on arrive pour qu'on puisse se mettre en contact. Et c'est vraiment comme ça que ça s'est placé.
Et à ce propos, Élisée, pourquoi vous avez choisi, vous, la pharmacie?
En fait, j'ai un parcours assez atypique et je pense que c'est le cas de Noah aussi. J'ai commencé par faire la médecine. Donc, j'ai fait 3 années en faculté de médecine. Puis, j'ai bifurqué en podologie à cause du numerus clausus, qui est donc un système qui limite l'accès au cycle supérieur en médecine. C'est un système qui a été mis en place en Belgique d'antan. Aujourd'hui, il n'est plus. Donc, il y a un examen d'entrée comme en France pour la faculté de médecine. Et donc, j'ai bifurqué, comme je vous dis, en podologie. J'ai terminé. J'ai eu mon diplôme. J'ai travaillé un tout petit peu. Mais comme je suis toujours une éternelle insatisfaite, comme dit ma mère, tu es perfectionniste, je me suis dit, ce n'est pas assez. Je vais encore faire autre chose. Et donc, je suis retournée pour faire ces études qui m'ont conduit à avoir mon diplôme d'assistante en pharmacie. Donc, j'ai toujours travaillé en répartissant, on va dire un peu en 50-50, mon travail d'assistante en pharmacie et mon travail de podologue, jusqu'il y a à peu près 2 ans où j'ai décidé de créer mon propre cabinet privé. Et de ce fait, j'ai mis un peu, on va dire, en sourdine mon métier d'assistante en pharmacie, en officine, je dis bien, puisque j'ai continué à l'exercer pour pouvoir vous sortir cette gamme de produits de soins naturels et éco-responsables.
Mais alors, la volonté de faire des produits naturels, c'était votre seule motivation qui vous a demandé de commencer votre marque? Parce qu'il y a quand même beaucoup de produits naturels
bien
aussi.
Bien sûr.
Qu'est-ce qui vous a incité à faire vos produits à vous? C'est en lien avec l'Afrique?
Alors, il y a deux pans. Je dirais, il y a deux pans. Dans le sens où le premier pan, c'est que ma fille est née avec une peau atopique. Donc, j'ai su rapidement que tous les produits, on va dire, plus ou moins sur le marché ne conviendraient pas. Alors une peau atopique, c'est une peau qui est assez réactive. Donc elle est très allergique et elle est difficile à entretenir, elle est difficile à hydrater. On a souvent de l'eczéma, on a souvent des irritations, on a des rougeurs. Une peau noire ou mate peut être atopique aussi. Donc je confirme bien qu'une peau atopique n'est pas réservée à la peau du type caucasien. Et donc, on va dire, ce souci dermatologique de ma fille m'a poussé déjà dès il y a maintenant 9 ans, plus ou moins, à faire des petits mélanges, à créer des crèmes simples avec le beurre de karité ainsi que de l'huile d'amande douce à l'époque pour pouvoir nourrir la peau d'Ariel, qui est ma fille. Et donc, ce côté-là, de pouvoir créer des choses simples...
C'est vous qui l'avez fait, ça marchait.
Voilà, ça marchait.
Ce que vous ne trouviez pas dans le commerce à l'époque.
Exact.
Formidable. Et vous, Noah, pourquoi avoir choisi l'architecture? Qu'est-ce qui vous a amené à ça?
En fait, j'ai toujours aimé ça depuis mon enfance. Depuis que j'avais 12, 13 ans, il y avait des émissions à la BBC qui étaient tous les midis, donc... Je regardais les avant-après casser et construire, ça m'émerveillait en fait. Et pouvoir changer d'ambiance comme ça dans la maison et pas vivre dans une boîte où vous avez le canapé toujours au même endroit, les mêmes couleurs du mur et où votre imagination ne se déploie plus. En fait, ça m'a, c'est quelque chose, j'étais toujours émerveillée, mais je ne savais pas que c'était un métier. Donc quand j'ai terminé le lycée, j'ai été dans une école qui fait de la gestion et communication, mais en raccourci, donc en un an, un curriculum d'un an. Et quand j'ai fini ça, je savais pas quoi faire exactement. Donc j'ai commencé à travailler dans les assurances pendant 2 ans, mais toujours en changeant. Je me cherchais et je faisais beaucoup de décorations chez moi à la maison, chez les amis et tout ça. Donc, mais je savais pas, personne m'avait dit que c'était un métier. Et je suis tombée enceinte, donc je pouvais plus courir partout pour faire de l'assurance. Et j'ai vu qu'il y avait un cours du soir sur 3 ans en décoration. Ils appelaient ça décoration assemblier. Et donc voilà, j'ai été m'y inscrire. Et donc là, c'était tous les cours sur l'architecture d'intérieur, la décoration, les ensembles, voilà.
Et toutes les deux, ce rapport que vous avez à la nature, parce qu'on le sent très très fort, dans tout ce que vous avez pu me dire aussi avant l'interview, vous êtes très proche de la nature, toutes les deux, vous l'expliquez comment? C'est les racines, c'est l'Afrique?
Je pense que oui, parce que quand on est né là-bas et qu'on grandit, là-bas, c'est différent. On est accordé à la nature. En fait.
Vous avez évolué en milieu rural aussi?
Moi, jusqu'à mes 8 ans. Oui.
Vous aussi?
Alors moi, je dirais, j'ai grandi à Kinshasa. Mais comme on sait tous à Kinshasa, on peut se permettre d'avoir des concessions, des maisons avec des arbres fruitiers, avec d'autres arbres fleuris. Exact. Ce qui fait qu'on a une connexion à la nature, même en étant en ville.
C'est omniprésent, oui. Absolument. On a parlé tout à l'heure des papas. On peut parler des mamans aussi?
Oui, bien sûr.
Donc les mamans, dans quelle mesure elles vous ont influencé aussi?
Alors la mienne, elle m'a fiancée parce que c'est une dame qui a fait une filière commerciale. Donc c'est une entrepreneur.
Ah voilà.
Ce côté-là, je pense que je le tiens d'elle. Et donc elle a foulé le sol américain avant moi, puisqu'elle a fait énormément de formations ici dans le cadre de sa fonction qu'elle avait occupée pendant quelques années à la Fédération des entreprises congolaises. Et donc du coup, c'est quelqu'un qui m'a énormément porté sur mon projet entrepreneurial et qui m'a poussé pour venir à Washington.
Noa Salebi, vous avez même écrit un livre sur votre projet pour promouvoir un petit peu votre projet, c'est ça?
Oui, exactement. Donc ça s'appelle Divinity, développement vers des nouveaux temps. Il est en anglais et en français, disponible sur Amazon. À savoir en fait que j'ai maintenant ouvert une fondation qui porte le projet et donc les bénéfices de ces ventes rentrent dans la fondation pour le développement de
pour le financer.
Oui.
On a dit un petit mot tout à l'heure sur les femmes. Vous, c'est le domaine de la construction, bon, l'agroforesterie, l'agriculture. On sait qu'il y a beaucoup de femmes en Afrique, surtout qui travaillent dans l'agriculture.
Exactement.
Mais dans la construction, dans quelle mesure peuvent-elles intervenir aussi? Parce qu'on sait que, encore une fois, malheureusement, le milieu de la construction, c'est encore très masculin.
C'est très masculin, mais aujourd'hui, avec les nouvelles techniques, en fait, ça devient féminin. La base et ce qui sera aussi beau dans le projet pilote, ce sera de mettre les femmes à construire.
Former les femmes pour la construction aussi.
Pour la construction aussi, parce que on nous a retiré deux choses importantes. Le fait de pouvoir cultiver sa propre nourriture et le fait de pouvoir construire son foyer. Et aujourd'hui, on donne à des gros groupes la responsabilité en fait de nous nourrir et de nous loger. Et aujourd'hui, on a vu ce que ça a comme conséquence. Et le Covid a permis à ce que le monde entier se mette en pause et prenne conscience en fait que si nous continuons comme nous sommes en train de faire, ben c'est ça.
Ouais, je vois un petit peu ce que vous voulez dire. Ce serait de l'architecture alternative.
Exact.
Alors, on fait toujours appel effectivement aux grands architectes, mais bon, qui connaissent peut-être pas grand-chose à l'Afrique, pour la plupart. Et finalement, même à tout point de vue, en plus, c'est des projets extrêmement coûteux. Pourquoi pas faire une architecture où l'équipe est vraiment effectivement locale? Ça, c'est intéressant. Au niveau de la pharmacie, la pharmacopée, on peut faire exactement la même chose.
Tout à fait.
Il y a énormément de femmes en Afrique qui connaissent les plantes.
Absolument, je confirme.
Donc là aussi, est-ce que vous avez déjà eu des contacts justement avec des dames là-bas sur place qui sont vraiment très pointues dans le domaine mais qui sont pas forcément connues? Parce que c'est de ça dont on parle. Des gens qui sont très doués, qui sont des experts, des professionnels, mais qui sont pas connus du tout parce qu'il n'y a pas un gros groupe, comme vous venez de le dire, derrière ces gens-là.
Exactement.
Moi, j'ai eu des contacts. Les tout premiers étaient en 2015. Et je compte essayer de repartir assez prochainement sur Kinshasa pour pouvoir avoir encore une sorte de partenariat, on va dire scientifique. Moi, j'appelle ça comme ça parce que, mine de rien, elles ont de la connaissance et cette connaissance est scientifique. Même si elles n'ont pas un diplôme universitaire, ce sont des bases et des connaissances scientifiques qui pourront me profiter. J'ai eu l'occasion en 2015 d'être dans la région de Kimpese, qui est dans le Congo central, où j'ai rencontré un professeur en pharmacie, qui était docteur d'ailleurs en pharmacie, et qui m'avait donné un recueil de plantes de la région, à peu près 2000 plantes répertoriées. Grâce justement, en collaborant avec toutes ces personnes, ces dames qui ont cette connaissance des plantes, et lui, avec cette partie didactique, a pu établir ce document qui est une Bible.
Et est-ce que vous auriez la possibilité dans quelques temps de créer votre propre laboratoire? Parce qu'encore une fois, là on rappelle que vous travaillez toute seule, mais vous auriez besoin d'une équipe de recherche un petit peu pour vous soutenir, on imagine.
Absolument. Ça fait partie des étapes de finalisation de mes projets.
C'est des beaux projets, Élisée Zola, Noa Salebi, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes toutes les deux congolaises, d'origine congolaise. Vous êtes entrepreneurs. Ben, on vous souhaite tout le meilleur, de toute façon, pour l'avenir. Et ça va marcher, il faut y croire, ça va marcher à fond, quoi.
Merci.
Nous y croyons.
Nous y croyons à fond.
À fond.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. À bientôt et bon courage.
Arrête.